Nous venons de passer, je pense tous, de bons moments d'échange et de partage autour de ce sujet important des projets dans notre vie, des projets qui peuvent être personnels et puis ça peut être aussi des projets pour l'Église, dans notre vie d'Église. Et pour la synthèse et la conclusion au moment que nous venons de vivre, je vais simplement m'appuyer sur ce texte de l'apôtre Jacques qui est projeté, que je vais lire maintenant. C'est Jacques au chapitre 4, les versets 13 à 17. À vous maintenant qui dites, aujourd'hui ou demain nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous y ferons des affaires et nous réaliserons un gain. Vous qui ne savez pas ce que votre vie sera demain. Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Vous devriez dire au contraire, si le Seigneur le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Mais maintenant, vous vous glorifiez dans votre présomption. Toute gloriole de ce genre est mauvaise. Si quelqu'un sait faire le bien et ne le fait pas, il commet un péché. Pour avancer dans ce texte, trois simples questions qui vont nous permettre de passer en revue l'essentiel de ce que Jacques dit ici. À qui Jacques s'adresse-t-il ? C'est important de définir ça pour bien comprendre de quoi il s'agit. Que condamne-t-il ? Et puis, comment faire des projets selon Dieu ? Premièrement, à qui Jacques s'adresse-t-il ? Il faut bien déterminer les personnes à qui Jacques s'adresse pour bien comprendre le sens de son message. C'est le premier point donc que j'aimerais souligner. Et le texte nous fait comprendre dès le début que Jacques s'adresse ici à une catégorie de personnes bien précises. C'est le début du verset 13, « À vous maintenant qui dites ». À vous maintenant qui dites. Et c'est en nous appuyant sur ce que Jacques dit, donc ici pour commencer, que nous pouvons comprendre que Jacques ne s'adresse pas à tout le monde. Jacques s'adresse ici à ceux qui disent un certain discours qu'il dit ensuite. Ce n'est pas donc tout le monde avec tous ses projets, mais ce sont des personnes qui font des projets d'une certaine manière. Et de quelle manière ? C'est la suite du verset. À vous donc qui dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous y ferons des affaires et nous réaliserons un gain. Ce verset 13 nous brosse en quelques coups de pinceau, sans doute, le portrait de marchands. De marchands à l'époque, qui étaient sans doute juifs et qui, à l'évidence, avaient réussi dans la vie. Alors peut-être que Jacques les imagine au moment où il écrit cette lettre, penchés sur une carte du bassin méditerranéen, en train de faire des projets, avec un de ces marchands qui dit « Bon, voilà là où nous allons aller, ici, là, nous allons faire des affaires dans cette ville. Et nous sommes sûrs, si nous agissons ainsi, de réaliser un bon profit. Alors, rassemblons notre marchandise aujourd'hui et demain, nous partirons. » Et Jacques les interpelle. À vous maintenant qui dites « Aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous y ferons des affaires et nous réaliserons un gain. » La parole de Jacques est donc une parole ciblée à ces personnes. Elle est ciblée et c'est une parole de reproche. Et donc, il faut bien comprendre que Jacques ne s'adresse pas ici à tout le monde, mais qu'il s'adresse à ces personnes et à ceux qui tiennent des discours similaires, des discours et qui agissent de la même manière. Que condamne Jacques dans notre texte ? Puisque nous avons dit que c'est une parole ciblée, que c'est une parole de reproche, nous arrivons à ce deuxième point, que condamne Jacques ? Et la réponse se trouve, elle aussi, dans notre texte, bien évidemment. Ce que Jacques condamne dans l'attitude de ces marchands, c'est leur arrogance, c'est leur présomption, et c'est aussi l'absurdité de leur façon de comprendre les choses, l'absurdité de leur attitude. C'est d'ailleurs ce que Jacques dit en quelques mots au verset 16, « Mais maintenant, vous vous glorifiez dans votre présomption. Toute gloriole de ce genre est mauvaise. » L'attitude de ces marchands est arrogante, pleine de suffisance et absurde. Et Jacques donne deux raisons à cela. La première, c'est l'attitude de ces marchands est arrogante et absurde, premièrement parce que l'être humain n'est pas maître de son destin. N'est pas maître de son destin. Personne ne maîtrise demain. Et c'est ce que Jacques dit au verset 14. Vous qui ne savez pas ce que votre vie sera demain. Vous qui ne savez pas, alors même que vous dites nous allons faire et ça va réussir et tout va se passer comme ci, comme ça. Mais vous ne savez pas ce que votre vie sera demain. Alors oui, l'expérience, le bon sens, la sagesse nous permettent dans la vie d'anticiper bien des choses. Et parfois, ça peut finir par nous donner le sentiment que nous maîtrisons les choses, que nous maîtrisons notre vie, que nous avons toutes les cartes en main, que nous avons les cartes de notre lendemain et de notre avenir en main. Et puis la vie moderne dans laquelle nous évoluons, dans laquelle nous vivons, pleine de technologies, avec des assurances en tout genre, peut finir par nous donner très facilement l'illusion d'une certaine maîtrise des choses, et peut-être même d'une maîtrise du lendemain. Et pourtant, personne ne peut savoir avec certitude de quoi demain sera fait. Personne ne peut garantir le lendemain. Personne n'a cette carte-là. Ça serait un sacré atout hein, à avoir dans sa main. Mais personne ne possède cette carte-là. Et si quelqu'un pense posséder cette carte, alors il s'illusionne complètement, grandement sur le sujet. Et c'est la raison pour laquelle Jacques parle ici de présomption. C'est une présomption pour l'être humain que de penser maîtriser ce qui va se passer demain. Aujourd'hui ou demain, j'irai ou je ferai, disent les marchands. Dans le livre des Proverbes, nous avons cette parole, « Ne te félicite pas du lendemain, car tu ne sais pas ce qu'un jour peut t'enfanter. » Nous ne savons pas, nous ne savons même pas ce qui va se passer dans 5 minutes. Alors demain. Et l'attitude des marchands dans notre texte est arrogante et absurde parce qu'ils pensent maîtriser leur lendemain. Ça, c'est la première raison, que l'homme n'est pas maître de son destin. Et puis, il y a une deuxième raison dans notre texte, c'est que l'être humain est si peu de choses. L'attitude des marchands est arrogante et absurde parce que l'homme, l'être humain, est si peu de choses en réalité. Et c'est ainsi qu'après avoir dit au verset 14 « Vous ne savez pas ce que votre vie sera demain », Jacques ajoute « Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. » L'être humain n'est qu'une vapeur. On sait tous ce que c'est qu'une vapeur. C'est là, un instant, et l'instant d'après, il n'y a plus rien. L'être humain est peu de choses. Qui pourrait raisonnablement en douter que l'être humain est si peu de choses? Certains le pensent le contraire. Mais si nous prenons le temps de bien penser les choses, que nous soyons croyants ou pas, je pense qu'on arrive quand même assez facilement à la conclusion que l'être humain est peu de choses. Et que les années de notre vie passent vite. Quand j'avais 10 ans, je ne le pensais pas. Oh, ah, j'aimerais devenir grand. On est tous comme ça. Ah, et puis on pense qu'on a toute notre vie quand on est jeune. Toute notre vie, waouh, ça paraît énorme. Toute la vie. Ah, oh, t'as toute la vie devant toi. On dit ça parfois aux enfants. Et puis, au bout d'un moment, on se rend compte que les années passent et qu'elles passent vite, que le temps s'enfuit, que le temps s'envole et qu'on ne maîtrise absolument pas ce temps qui nous échappe complètement des mains. Oui, d'une certaine manière, la vie peut être longue, mais même les longues vies sont en réalité si peu de choses et elles passent si vite. Et nous finissons tous par réaliser que notre vie est brève, que notre vie est éphémère et que nous sommes fragiles. Un simple caillou dans la chaussure de notre vie suffit à nous ralentir. On n'a pas besoin de prendre un rocher sur la tête, un petit caillou dans la chaussure, et nous voilà déjà en train de boiter, et nous voilà déjà arrêtés sur le bord du chemin. Nous sommes si fragiles, si fragiles. Et cette fragilité, le roi David, comme nous, l'avait comprise quand il écrit au psaume 39 ceci: « Seigneur, fais-moi connaître ma fin. Quelle est la mesure de mes jours, que je sache combien je suis fragile ? Tu as donné à mes jours la largeur de la main, c'est pas grand-chose quand même, hein ? Et la durée de la vie est comme un rien devant toi. Oui, tout homme debout n'est que vapeur. Oui, l'homme se promène comme une ombre, il s'agite, mais c'est une vapeur. Et Job, avec cette parole connue, dira « Qu'est-ce que l'homme ? Qu'est-ce que l'homme ? Pour que tu en fasses tant de cas, pour que tu daignes prendre garde à lui. » Oui, qu'est-ce que l'homme ? En réalité, tellement peu de choses. Un souffle, une vapeur qui si vite n'est plus. Oui, l'homme est peu de choses et ses jours sont comptés, ils passent vite. Et nul n'en sait le nombre. Je ne vais pas m'étendre là-dessus, parce qu'on a tous compris cela, je pense. Et surtout, ce que j'aimerais dire avant d'arriver au dernier point, c'est que, vous l'avez compris, maintenant, Jacques ne condamne pas, bien évidemment, l'idée de faire des projets. Ce n'est pas ça qui est condamné dans notre texte. Ce qu'il condamne, c'est l'attitude présomptueuse, l'attitude pleine de suffisance des marchands, mais aussi de toutes celles et ceux qui agissent de cette manière, c'est-à-dire sans reconnaître la souveraineté de Dieu sur leur vie et sur leurs projets. Ce que Jacques condamne, c'est de former des projets indépendamment de Dieu. C'est de ne pas avoir de place pour Dieu dans mes projets. C'est de parler de demain comme si demain m'appartenait, comme si je maîtrisais demain, finalement comme si j'étais Dieu. Parce que celui qui maîtrise demain, c'est Dieu, c'est pas moi. Et si je pense que je maîtrise demain, alors je pense que je suis Dieu, au fond de moi. Et c'est bien cette prétention-là que Jacques condamne dans notre texte. Et c'est pour ça qu'il dit que toute gloriole de ce genre, toute présomption de ce genre, est mauvaise. Alors, ça nous amène maintenant à notre dernier point, comment faire des projets selon Dieu. Jacques ne se contente pas de dénoncer l'attitude arrogante, présomptueuse, absurde de ces marchands, mais il va aussi nous dire comment bien faire des projets. Et nous allons terminer avec ça, et c'est ce que nous lisons au verset 15. Jacques dit « Vous devriez dire au contraire, si le Seigneur le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. » Si le Seigneur le veut, si Dieu le veut, voilà l'attitude que Dieu désire que nous ayons face à demain, face à nos projets. C'est cette attitude qui manquait aux marchands de notre texte. Parce que Dieu était totalement absent de leur vision des choses, de leur compréhension des choses, de leur compréhension de la vie. Alors, comment faire des projets selon Dieu ? Déjà en intégrant Dieu dans l'équation, en tenant compte de Dieu dans les projets que je fais, en tenant compte de ce qu'il dit dans sa parole, en tenant compte bien évidemment que je ne maîtrise pas demain, que demain ne m'appartient pas, que demain est dans la main de Dieu et non pas dans la mienne, en tenant compte que Dieu est souverain et qu'il fait ce qu'il veut, en me soumettant à sa volonté, en l'acceptant même quand elle est différente de la mienne. Voilà, dans les grandes lignes, ce que signifie cette phrase « si Dieu le veut ». Si Dieu le veut. Alors, il y a un écueil ici que j'aimerais juste évoquer et qu'il nous faut éviter. C'est l'écueil de la superstition. C'est l'écueil de la parole magique. En effet, Jacques, ce qu'il dit en tout cas, pourrait nous laisser penser qu'il suffit de plaquer cette formule dans tout ce que nous projetons de faire, dans nos prières, et puis c'est bon, tout va bien marcher. Si Dieu le veut, alors on le met à toutes les sauces. Hein. On dit quelque chose, si Dieu le veut. On prie, si Dieu le veut. Hein. Alors, oui, peut-être, mais attention, parce que ça peut devenir quelque chose d'automatique qui n'a plus de sens. Et on peut utiliser les mots ou pas. Finalement, ce n'est pas là qu'est l'essentiel. L'essentiel, c'est l'attitude du cœur. L'essentiel, c'est la soumission du cœur à Dieu. Se soumettre à la volonté de Dieu, reconnaître sa souveraineté sur ma vie, sur mes projets, c'est bien plus que simplement une question de formule à utiliser ou pas, de formule appropriée ou pas. C'est avant tout une question de l'attitude de notre cœur. Parce que les mots que j'utilise ne sont rien, ne valent rien si le cœur n'est pas droit devant Dieu. J'ai beau dire si Dieu le veut, si ma vie n'est pas soumise à Dieu, ça ne vaut pas grand-chose. Et de la même manière, je peux très bien ne pas dire si Dieu le veut, mais ma vie le dit d'elle-même. Alors, il y a deux textes dans le livre des Actes qui nous montrent que effectivement la formule, c'est pas ce qu'il y a de plus important. C'est Paul qui à deux reprises dit quelque chose. Dans la première formule, il dit si Dieu le veut. Et puis dans la deuxième, il ne dit pas cela, mais il est aussi en train de se projeter en avant. Ils arrivèrent à Éphèse et Paul y laissa ses compagnons. Il entra dans la synagogue et s'entretint avec les Juifs qui le demandèrent de rester que le temps, mais il n'y consentit pas et prit congé d'eux en disant « Il faut absolument que je célèbre la fête prochaine à Jérusalem. Je reviendrai vers vous si Dieu le veut. » Ah, Paul a tout juste, hein, c'est comme ça qu'il faut faire. Et pourtant, au chapitre suivant, Paul forma le projet d'aller à Jérusalem. En traversant la Macédoine et l'Achaïe, il disait « Après m'y être rendu, il me faudra aussi voir Rome. » Et il ne dit pas « si Dieu le veut ». Donc on comprend très bien que les mots, bien évidemment, sont peut-être importants, mais le plus important n'est pas là. Ce qui compte, ce n'est pas les mots en eux-mêmes, mais c'est l'attitude du cœur, la soumission du cœur et la confiance que je mets en Dieu qui conduit toutes choses. Et donc nous devons veiller à ne pas tomber dans une sorte de légalisme de la formule à dire, où à chaque fois que nous formons des projets, nous nous empressons d'ajouter « si Dieu le veut », un petit peu pour être sûr que tout est dans les clous, comme si la formule allait garantir la réalisation de notre projet, la réalisation selon Dieu de notre projet. Mes amis, ça c'est de la superstition, ce n'est pas de la foi. Alors ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas dire si Dieu le veut, hein, comprenez-moi bien. On peut le dire pour autant que ça corresponde véritablement à notre conviction que nos projets sont dans les mains de Dieu. tout cas, ce que l'apôtre Paul, Jacques, ici, veut nous faire comprendre, c'est que l'important n'est donc pas dans les mots, dans le bon vocabulaire, mais dans la soumission à Dieu. C'est ça, faire des projets selon Dieu. C'est lui remettre ma vie, c'est lui remettre mes projets dans la compréhension qu'il est souverain, dans la compréhension qu'il m'aime, dans la compréhension qu'il veut mon bien, dans la compréhension qu'il peut conduire toute chose pour mon bien. Et quand j'ai cette attitude-là, alors je suis prêt à accepter que parfois le chemin ne passe pas exactement là où je pensais qu'il devait passer, parce que je sais que Dieu sait mieux que moi. En fait, sans doute, c'est un défi pour chacun de nous, mais sans doute que notre attitude devant Dieu, quand nous formons des projets, devrait toujours chercher à s'inspirer de l'attitude de Jésus dans le jardin de Gethsémané. Vous connaissez bien ce texte, quand Jésus prie que cette coupe, s'il est possible, s'éloigne de lui, et puis il ajoute « Toutefois non pas comme moi je veux, mais comme toi tu veux ». Alors oui, faisons des projets personnels, faisons des projets en Église, faisons des projets parce que c'est la vie, mais soumettons-les à Dieu et sa volonté se réalisera au travers de nous. Faisons-les dans la compréhension que Dieu est souverain, que sa volonté est toujours la meilleure pour nous, même quand nous ne la comprenons pas. Alors faisons des projets, certains seront grands, d'autres seront petits, certains seront importants, d'autres seront insignifiants, certains sont à court terme, d'autres à long terme, on peut tout mettre dans cet intitulé des projets, peu importe. Que ce soit des grands, des petits, peu importe. L'important, c'est de les remettre au Seigneur. Recommandons-les à Dieu, mettons en lui notre confiance et il agira. Il agira et il agira pour notre bien parce qu'il nous aime. Amen.